Oui.
Okay. Ouais, donc là, beaucoup là. Ça va être vachement ouais, une.
Du coup, toujours 909
ouais, ouais, quand même. Ouais, quand même, quand même.
Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie pour la séquence, tout simplement invité du mois. On le présente dans quelques instants, juste avant quand même la présentation de nos chroniqueurs. Comme d'habitude, Xavier, comment ça va?
Ça va pas mal, et toi aujourd'hui?
Très bien, pas de remarques sur son polo. J'ai remarqué évidemment que ça commençait à devenir un petit peu exagéré. Pas de répétition dans cette émission. On continue le comique de répétition, on le laisse évidemment aux grands artistes. J'en suis pas encore un grand, voilà, j'en suis pas encore un grand, mais ça pourrait venir. Quentin, comment ça va?
Ça va très très bien.
Très bien.
Ouais.
Passez un bon week-end.
Passez un très bon week-end. On espère que le soleil va revenir. Normalement, ce week-end-ci, ça fait quand même du bien. Ça embellit la journée, je trouve.
Exactement, exactement. On est toujours de très bonne humeur, surtout quand on est dans cette émission, sur ce plateau, pour pouvoir parler du football belge avec un programme qui sera d'ores et déjà haletant. Évidemment, retour sur la finale de la Coupe de Belgique. Projection sur le derby entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise. Et puis, il sera question, bien évidemment, du Standard de Charleroi. Et puis, peut-être aussi de la Louvière. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a un invité qui a été champion, ou plutôt qui a monté en Jupiler Pro League. Eh bien, cette année, il s'appelle Fadel Govitaka. Comment ça va?
Super, Sacha. Merci pour l'invitation. Très content d'être là.
Eh bien, ça me fait super plaisir, en tout cas, de te recevoir. La dernière fois que j'ai vu Fadel, je dis que j'allais dire, ça, je vais quand même le dire, on était ensemble avec un copain qui est Dimitri Lavallée, que j'embrasse d'ailleurs, le joueur de Sturm Graz, et on était aux Ardents, et t'étais arrivé en ninja.
Ouais.
C'était quoi, en fait, qui t'a appris à ce moment-là? Ce jour-là, tu t'es dit, j'ai envie de me mettre en All Black Everything, en mode 6-6-7 Frisk Corleone.
Exactement.
Et tout de suite, je veux pas qu'on me voit, quoi.
Exactement. Cagoulé avec le nez qui dépassait. On est venu en discrétion, on est reparti en discrétion.
Magnifique. Bon, bah, écoute, là, maintenant, t'es bien visible.
En ouais, tout cas, là, je suis là. Et on va bien discuter.
Ouais, ben, ça me fait très plaisir. En tout cas, félicitations pour cette montée en Jupiler Pro League. C'est une aventure absolument exceptionnelle. C'est quelque part un peu une histoire de famille, une histoire tellement saine qui a grandi comme ça, petit à petit. On a pris le parti dans le Football Time, toujours de se projeter sur la saison prochaine. Cette fois-ci, on se projette évidemment avec une équipe qui est montée avec vous. Juste une petite question. Toi, t'es passé par le stade amateur, t'es deux ACFF, jusqu'à la Jupiler Pro League. Est-ce que dans ton parcours de vie formé au Standard de Liège, passé notamment par les clubs luxembourgeois, tu t'estimes être un peu un miraculé?
Je pense oui, d'une certaine manière, parce que quand j'ai commencé à 17 ans D1, je n'imaginais pas un jour redescendre dans D2 amateur. Au final, je suis redescendu et il s'avère que c'était vraiment le bon choix pour la suite de ma carrière, parce que maintenant, comme tu as dit, on vient de monter en Jupiler Pro League, donc très content, et je pense que oui, on peut dire que je suis un miraculeux.
Et qu'est-ce que tu as appris justement durant ce parcours qui peut être un parcours sinueux, difficile aussi, entre tous tes différents clubs, pour arriver maintenant? Est-ce que tu as retenu une leçon de ce passage à vide pour revenir maintenant clairement dans la visibilité?
Bien sûr, j'ai surtout appris à faire preuve de résilience, d'humilité, de travail et surtout de patience, parce que j'aurais voulu revenir plus tôt. Les opportunités ne sont pas forcément présentées, soit de ma faute ou aussi, la chance n'a pas tourné de mon côté. Donc j'ai dû faire preuve de patience, de travail, et c'est tout ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je pense que je suis un homme qui a grandi par rapport à celui que tu as connu à l'époque. J'ai un homme qui a grandi et qui maintenant, comme tu as dit, ne va pas refaire les mêmes erreurs qu'avant.
Et justement, quand tu dois quantifier le type d'erreur, ou plutôt les nommer, ce serait quoi par rapport à ton époque où justement j'étais très très bien connu au Standard de Liège, sous Yannick Ferreira, où t'étais quasiment ce qu'on appelle aujourd'hui un prospect? Peut-être que justement tu aurais pu être le carré de sas de l'époque, tu vois ce que je veux dire, une espèce de pépite comme ça à 17 ans à qui on donne la chance. C'est vrai qu'à l'époque on donnait moins leur chance aux jeunes que maintenant c'est devenu quelque chose d'assez automatique. Toi, t'en as peut-être un peu souffert de ça dans ta progression?
Je sais pas si on peut dire j'en ai souffert, mais en tout cas, comme tu m'as nommé certaines erreurs, je pense qu'une, c'est surtout qu'à un certain moment dans ma jeune carrière à l'époque, j'ai pu faire preuve de suffisance, ce que maintenant, à l'heure actuelle, je ne ferai plus du tout. Et ce qui a fait que peut-être j'ai pu me reposer sur mes lauriers et que d'autres sont venus me dépasser en pensant que moi, j'étais arrivé. Or que c'était seulement le début d'une nouvelle histoire. Et si tu me demandes ça à l'heure actuelle, là, je suis déjà en train de travailler pour la saison prochaine. Tu vois.
C'est top.
C'est ce que tu changerais du coup? Si tu devais changer une chose que tu as eu dans ton passé, tu pouvais changer un truc?
Je pense que je mettrais beaucoup plus la culture du travail en avant dans mon éthique de travail.
Okay. Et quand tu as vécu justement des moments, on le sait, dans sa carrière, dans ta carrière un petit peu plus difficile, qu'est-ce qui t'a toujours envie, te donner, pardon, envie d'y croire à justement une progression, à quelque part des lendemains meilleurs?
Mais au fond de moi, je savais que j'ai les capacités pour jouer plus haut et je savais que j'étais pas à ma place surtout. Après, comme je dis, j'ai fait preuve de résilience et le travail aussi a fait que voilà, j'ai pu remonter. Mais surtout aussi en arrivant à la RAL, pardon, je suis aussi revenu dans un cadre familial proche de ma famille et de mes sœurs, ce qui m'a permis aussi dans les moments difficiles, mais voilà, j'étais très bien entouré et j'ai pu tout de suite me remettre dans de bonnes conditions pour travailler et aller de l'avant.
Et ce qui est intéressant quand tu parles de travail, c'est surtout aussi une forme de remise en question. On dit souvent les joueurs maintenant sont cantonnés parfois à leur poste, ça devient un peu des joueurs méta, on leur dit fais ceci, fais cela, et derrière de manière un peu robotique, ils s'appliquent. Toi, tu as réussi à te réinventer aussi dans un rôle qui est un rôle hybride que tu n'avais pas au début de ta carrière, où là, on te classifiait véritablement comme un ailier de percussion, capable de faire des différences en un contre un, d'aller justement, par exemple, avec ton pied droit, eh bien, entrer dans le jeu, etc., ou alors justement repiquer dans l'axe pour faire la petite passe vers l'attaquant. Maintenant, tu es devenu quasiment un piston.
Ouais, exactement. Il faut savoir que même j'étais formé comme numéro 10 au standard. Et après, quand je suis arrivé en équipe première, j'ai commencé à jouer sur les flancs, ce que j'aimais beaucoup. Hein. Et comme tu dis, j'étais vraiment très offensif. Fallait pas me parler de vraiment défendre, tout ça. Mm-hmm. Et au final, quand ma carrière avançait, en arrivant à la RAL, ben voilà, j'ai commencé à jouer piston. Mm-hmm. Un poste que, à l'heure actuelle, franchement, j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai dû, comme tu as dit, vraiment apprendre surtout le côté défensif. Faire les efforts, au début, je les faisais en tirant la tête. Mm-hmm. Maintenant, je les fais... on va dire de bon cœur.
Mmh. C'est ce que disait Luis Enrique à Kylian Mbappé dans son documentaire. Tu es un phénomène, mais ça ne me suffit pas. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il lui disait. Il faut savoir faire les efforts défensifs très, très importants pour pouvoir être un meilleur. Pourquoi? Parce que Michael Jordan, lui, faisait les efforts pour ses partenaires. Il faisait justement les retours en arrière. Ça aussi, ça suffit plus maintenant dans le football de faire un crochet court et derrière aller passer son homme pour faire la passe décisive. Tu dois aussi aller travailler.
Ouais, exactement. L'équipe maintenant ne dépend plus que d'un joueur. Tu dois te fondre dans un collectif et faire les efforts nécessaires dans le collectif pour que le collectif puisse gagner. Et à partir de là, ton individualité va briller. Donc non, voilà, j'ai dû me réinventer. Et maintenant, je défends.
Mais moi, Et comment tu prends ce plaisir? Le plaisir de défendre. Quand on est en offensif, comment on va le trouver? Comment on va le chercher? Est-ce que c'est à travers le fait que l'équipe se porte bien, exactement, que ça gagne, ou alors c'est justement le truc de se dire, mais en fait, j'aime bien venir m'arracher.
Mais en fait, c'est le, comme je dis, je suis plus le même joueur qu'avant, et maintenant, faire les efforts, je prends plaisir à les faire.
Ouais.
Surtout qu'au final, à la fin, l'équipe prend les 3 points, on est en haut du classement, quand on travaille la semaine, tout le monde est souriant, ça donne une meilleure atmosphère, tu vois, mm-hmm, que si maintenant, je sais pas, l'équipe ne gagne pas, le groupe vit pas bien, tout ça, ça va être un peu plus compliqué. Et là, tout est mis en œuvre, je sais pas si c'est par chance, en tout cas, tout est mis en œuvre, et tout colle pour que, les efforts, je les fais avec plaisir.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de magie, hein, messieurs, pour la Louvière. On ne s'attendait pas du tout à les voir en Jupiler Pro League. Et puis là, ce système de jeu a complètement, et même ne serait-ce que même l'ambiance, l'énergie a complètement transcendé tout le monde. Et quelque part, on est tous contents de les revoir, en fait. Vous savez.
Ouais, clairement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les avait plus vus en DA1, donc c'est cool de les revoir. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément, parce qu'ils ont fait l'année passée, ils étaient déjà montés l'année dernière, donc 2 montées consécutives, c'est quand même très très rare dans le football moderne. Donc déjà ça, c'est top pour eux. Et puis comme tu dis, c'est vrai que tout fonctionnait bien, et je pense, comme l'a dit Fadel aussi, quand t'as des bons résultats, que le groupe vit bien, c'est aussi plus simple pour aller chercher des fois des petites victoires ou des fois des matchs plus compliqués. Bah, si tout le groupe, tout le monde se bat l'un pour l'autre, c'est comme ça que tu vas chercher peut-être les points qui font vraiment la différence en fin de saison aussi.
Oui, tout à fait. Alors, l'ambition générale, on est d'accord, la saison prochaine, ça va être de se maintenir. Mm-hmm. On va pas non plus, comme d'habitude, du côté de la RAL, c'est-à-dire on va pas se projeter sur trop loin, on va pas aller trop loin. Je pense que se maintenir actuellement avec le budget et ce qui est en train de construire évidemment Salvatore Curaba avec toutes ces avec tous ces hommes à côté de lui, c'est ça. Mais fondamentalement, et messieurs, j'aimerais bien aussi écouter votre réponse après. On a besoin de quoi dans cette équipe pour avoir la qualité d'équipe, justement, de collectif suffisant pour pouvoir se maintenir? Toi, tu as été dans ce groupe.
Après, comme tu dis, j'étais dans ce groupe et franchement, à l'heure actuelle, c'est déjà un groupe très très compétitif, hein, parce que ben tu connais David, ouais, et la cellule de recrutement, comment ils travaillent, c'est toujours des profils très bien ciblés et l'équipe fonctionne toujours très bien. Alors maintenant, si tu me poses la question pour la saison prochaine, je pense que là tu vois, on a un groupe très jeune, donc l'idéal ce serait peut-être d'amener des joueurs qui connaissent les rouages de la division. Après, je demande pas forcément des grands noms, mais des joueurs qui connaissent les rouages de la division et qui puissent encadrer ces jeunes pour les accompagner dans une division qui est nouvelle pour eux. Mm-hmm. Donc, je pense que avec ça déjà, ce sera suffisant, je pense, pour se maintenir. Parce que aussi l'année prochaine, il y a qu'un descendant. Mm-hmm. Donc, je pense que ça pourrait.
Oui, c'est vrai aller. Que 15e. Et alors, du coup, alors ça c'est important, Quentin. Mm-hmm. Le 15e va quand même disputer les barrages ou il y aura pas de barrage du tout?
Alors ici, il y aura qu'un potentiel descendant et je pense qu'il joue. Je crois qu'il descend direct. Je sais, il faudrait voir s'il descend direct ou s'il y a un barrage, parce qu'il faut quand même que le premier, ouais, le vainqueur de la D2 doit quand même monter directement. Ça me semble
logique.
Ça me semble logique, mais non, la logique, avec la fédération, c'est pas toujours le cas. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que Fadel disait. Pour moi, il faut vraiment des joueurs d'expérience qui connaissent ce championnat pour encadrer des jeunes et tu dois vraiment avoir des joueurs d'expérience, mais je pense qu'il faut surtout pas des joueurs qui ont un gros ego. Parce que tu dois avoir des joueurs qui doivent savoir s'intégrer dans cet esprit familial. Parce qu'on en a parlé en off, c'est vraiment une famille, ils s'entendent super bien entre eux et tout. Et si tu commences à prendre un joueur qui a un melon, parce qu'il a joué, oh moi j'ai joué autant de matchs à Anderlecht, oh j'ai joué autant de matchs à Charleroi, ou autre, en division belge, je pense que ça va vraiment pas le faire. Et c'est là que la cellule de recrutement et ce que David fait vont devoir être vraiment très importants et allier cette fougue, cette jeunesse avec cette expérience, notamment dans des postes comme un défenseur central, un milieu de terrain, et vraiment pour encadrer les jeunes. Et puis step by step, comme on dit, mais j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, la RAL monte à l'année parfaite. Mm-hmm. Il monte l'année parfaite parce que ça va être cette transition de 16 à 18 équipes. Et donc, imagine s'ils étaient montés l'année dernière, elle était potentiellement 3 descendants. Ouais. Honnêtement, là, ça aurait été très, très compliqué. Donc, c'est vraiment l'année de transition parfaite pour s'intégrer dans cette division 1. Et l'année d'après, là, par contre, tu vas pouvoir passer à la vitesse supérieure.
Et le type de joueur aussi, Xavier, qu'on peut justement faire venir. On parle de l'expérience de la Jupiler Pro League. J'ai souvent eu des discussions notamment avec des entraîneurs aussi dans le championnat de Belgique. On me disait, c'est important pour performer en Belgique. Il faut des joueurs qui connaissent le championnat. Donc, ça rejoint totalement ce que vous dites, messieurs. Mais fondamentalement, est-ce que un joueur qui connaît, qui a l'expérience de la Jupiler Pro League ne préférera pas aller dans un club où, budgétairement parlant, quand même, on le sait, on lui offrira plus, parce que la Louvière ne va pas pouvoir se permettre de délier les cordons de la bourse de manière complètement folle pour des joueurs qui sont des routiniers et des routards de la Jupiler Pro League, même si c'est important de les avoir en termes d'expérience.
Oui, sûr, mais voilà, comme tu dis, il y a peut-être au niveau salaire, c'est peut-être différent, mais ils peuvent peut-être aller chercher quelques joueurs du côté de Courtrai, toi, par exemple.
D'accord.
Le Courtrai, eux, ils vont redescendre d'un échelon, il y a peut-être des joueurs qui veulent pas aller jouer en D1B, mais qui ont l'expérience de la D1A, que au final, Courtrai, c'est quand même une bonne équipe, c'est juste que ils ont eu, enfin toi, avec un peu plus de réussite, ils se seraient sauvés. C'est juste qu'ils se sont réveillés un peu tard. Mmh. Mais il y a quand même des très bons joueurs du côté de Courtrai. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui seraient, qui accepteraient, par exemple, si les propositions viennent et autres, c'est des discussions d'argent, ça sera encore autre chose. Mais toi, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui peuvent peut-être apporter un plus. Et c'est vrai qu'un joueur d'expérience par ligne, ça pourrait aider justement pour.
Notamment Dion Deneuve, je pense, qui est en fin de contrat, qui est un joueur très très intéressant.
Il faut essayer de trouver des joueurs un peu revanchards comme ça, qui ont quelque chose quand même à prouver en D1. Mais qui ont déjà joué en D1 aussi.
Ouais.
C'est surtout ça, pour revenir à ce que tu disais, que l'argent, pour moi, justement, ils doivent pas prendre des joueurs qui viennent pour l'argent. Et c'est ça qui fait que le club, je pense, réussit. Ouais. Parce que c'est des joueurs revanchards, c'est des joueurs qui ont envie, qui sont pas là pour l'argent et rien faire. Et c'est surtout ça qu'ils doivent rester dans cette dynamique-là. Pour moi, je trouve avoir cet esprit de collectif, d'équipe. S'ils prennent un joueur qui vient pour l'argent, le joueur, il va pas être motivé. Ouais. Il va faire sa star parce qu'il gagne plus d'argent que les autres et tout. Donc justement, ils doivent rester vraiment dans leur même mindset qu'ils ont fait la saison dernière.
Alors Fadel, on va parler cash, t'es en fin de contrat.
Ouais.
Comment t'envisages l'avenir maintenant? Tu l'envisages avec les Loups, tu vois déjà, il y a des discussions, comment ça se passe?
Ouais, pour l'instant on est en bonne discussion avec la Louvière, donc l'idéal voilà, c'est de continuer avec le club. Après, comme t'as dit, je suis en fin de contrat, donc la saison a été bonne, la saison qui vient de se terminer, pardon, a été bonne, donc il y a d'autres intérêts, mais pour répondre à ta question, oui, il y a des discussions avec la RAL et l'idéal, c'est de continuer ensemble.
Et tu veux continuer, évidemment, et je pense que c'est une très, très bonne manière pour toi aussi de te faire à nouveau connaître et tes qualités, parce que forcément, on peut dire ce qu'on veut, la Challenger Pro League, c'est beaucoup moins visible que la Jupiler Pro League. Mm-hmm. Donc, tu vas aussi avoir beaucoup de choses à gagner si tu continues dans un collectif que tu connais bien, où tu vas pouvoir montrer également tes qualités, ne serait-ce que même pour ta carrière, la saison prochaine, les saisons d'après, etc. Ça reste quand même une entreprise, le football. Donc, s'il y a une belle offre qui arrive, même si tu prolonges derrière, tu pourras toujours faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Messieurs, on va passer au d'accord, pas d'accord. Je vais vous demander de me donner, bien évidemment, la petite pancarte qui est là. Bien évidemment, n'hésitez pas. Hein. On like et on s'abonne, c'est hyper important. On va commencer avec l'Union Saint-Gilloise, messieurs, c'est important. Inarrêtable, l'Union Saint-Gilloise file vers le titre et va battre le record des 26 points sur 30 établi par le Standard de Liège. À l'époque, c'était en 2011, en Champions Playoff. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase, Xavier? Il est d'accord. On n'est pas d'accord du côté de Quentin et on est d'accord du côté de Fadel. Ah, c'est sympa. Il va y avoir un duel entre les deux copains dans le même divan. C'est magnifique. On t'écoute, Quentin.
Ouais, pas d'accord parce que pour moi, pour battre le record du standard de 26, ils doivent faire un 9 sur 9. Ils ont deux déplacements et je vois pas l'Union faire le 9 sur 9, même si ils ont la, entre guillemets, la chance de jouer contre les trois équipes les moins fortes de ces playoffs. Mais il y a deux déplacements, il y a un derby bruxellois et je trouve qu'ici ils ont toujours eu la petite pièce qui est tombée à chaque fois du bon côté. Mmh. Donc ici, ben, ils ont Burgess qui met une tête pour gagner. Ils font le 4 sur 6 contre Bruges. Ils auraient pas forcément mérité le 4 sur 6 sur les deux rencontres. Donc, je pense qu'ils vont peut-être au moins se raccrocher une fois avec un petit nul, potentiellement.
Ça va être intéressant. Ce petit nul, ça pourrait être contre Anderlecht, éventuellement.
Ouais, possible. Mais après, Anderlecht joue que pour gagner le derby parce que, qu'ils ont plus grand chose à jouer. Anderlecht, la quatrième place est quasiment assurée.
Je pense qu'honnêtement, je pense qu'ils doivent quand même jouer pour leurs supporters.
Oui, oui, donc, pour le derby, ça que j'ai dit.
Tu dois un peu montrer, ce qu'on n'a pas vu, notamment, on en reviendra, mais ce qu'on n'a pas vu lors de la finale, c'est d'inventer de la rage, de l'énergie, de l'envie, de la combativité. Si t'as un minimum d'amour propre et de l'amour pour ton club et tes supporters, je pense qu'ils doivent bouger leurs fesses ce week-end.
Ouais, c'est très très compliqué, effectivement. Le Sporting d'Anderlecht va devoir, à un moment donné, élever le niveau. Mais toi, tu penses que c'est possible? Ouais. Ils vont pouvoir aller chercher plus que 26 sur 30. Ils sont déjà à 21, je pense.
Ils ont un nul.
C'est un seul match nul, donc c'est impressionnant, quand même.
Ouais, franchement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. Et c'est justement pour ça que je pense qu'ils peuvent le faire. Parce que là, la dynamique dans le groupe est vraiment très bonne. Et on sait que la victoire appelle les victoires. Donc, je pense qu'ils peuvent continuer. Surtout que les trois derniers adversaires sont des adversaires, entre guillemets, abordables par rapport aux deux autres qui viennent d'affronter. Donc non, moi, je pense que c'est possible.
Et ils ont 19 sur 21.
Voilà, 19 sur 21.
Ils ont fait 19 sur 21 avec le match nul contre le club de Bruges.
Mais le plus dur, c'est le match du week-end prochain, en fait, fondamentalement pour l'Union. Parce que.
Oui, bien sûr, c'est un déplacement.
Là, on a vu la Gantoise, on a vu l'Antwerp, c'est pas nécessairement des foutes de guerre.
Après, c'est deux équipes qui vont devoir se battre pour la place européenne, quand même, en fin de saison. Ouais. Donc, si eux aussi, ils ont un minimum d'amour propre, même si on le voit pas forcément durant ces playoffs. Mais je pense que même un 7 sur 9, ça pourrait être intéressant.
Moi, ce qui, vraiment, je veux dire, me glace le sang, mais qui m'impressionne véritablement dans l'équipe de Sébastien Pocognoli, c'est ce calme, c'est ce flegme, c'est le fait de dire, OK, on bosse, on avance, tout va bien. Quelque part, ils gèrent un peu comme une grande équipe, alors qu'ils ont toujours été considérés comme les petits poussets, quoi, qui venaient faire la surprise.
Exactement. Après, je pense qu'ils ont aussi beaucoup appris des deux dernières saisons où, voilà, ils ont loupé le coche de peu. L'équipe a grandi, le club a grandi, et je pense que maintenant, ça se voit sur le terrain. C'est une équipe qui sait ce qu'elle fait, elle gère son sujet. Ouais, c'est justement pour ça aussi que je pense qu'il y a de chances qu'elle fasse le 9 sur 9.
Et c'est impressionnant, effectivement. Surtout, je trouve, dans la gestion des rencontres. C'est-à-dire que l'Union, dans son temps fort, temps faible, Xavier, quand même a tendance à savoir souffrir. Il y a cette capacité à accepter qu'à un moment donné, on va être mal dans le match.
Ouais, c'est sûr qu'ils aiment bien, enfin, ils sont capables aussi de souffrir, comme tu l'as dit, faire le dos rond. Après aussi, comme l'a dit Quentin aussi, c'est que cette année, contrairement aux autres années, c'est que tous les petits trucs qui font la différence, ça tourne en leur faveur pour le moment. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils restent calmes et autres. Parce que, par exemple, s'ils étaient menés face à Genk avant le carton rouge de Bangoura, est-ce qu'ils seraient restés aussi calmes? Est-ce que Vettlesen, s'il ne met pas la tête à la 93e, est-ce qu'il resterait aussi calme pour le match retour? Vu que pour le moment, tout tourne dans leur faveur, ils ont des raisons de rester calmes.
Ouais.
Mais j'aimerais bien voir si, enfin, je leur souhaite pas. Et si un jour, t'as un petit grain de sable qui empêche le roi, voilà, est-ce qu'ils vont rester aussi calmes, si proches du but, peut-être encore plus proches que les autres années?
Ouais.
C'est ça que j'aimerais. Après, je leur souhaite d'être champions, mais pour moi, ils ont toutes les raisons de rester calmes, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter.
Mais les trois adversaires, là, individuellement, tu les trouves plus forts? Tu trouves qu'ils vont pouvoir souffrir dans ce type de match?
L'Union est clairement au-dessus, par contre, l'Union va devoir faire peut-être un peu plus le jeu que les deux, trois derniers matchs, enfin, les deux matchs contre Bruges et contre Genk. Je pense que c'est l'Union qui va devoir prendre le jeu à son compte, et ça fait un moment qu'ils l'ont plus trop pris à leur compte, donc est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Normalement, oui. Mais ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Hein.
Offensivement, on en a déjà parlé précédemment, ça devient compliqué. Hein. C'était les hommes forts de cette phase classique. Ivanovic, qui dans ses playoffs ne fait pas de bons playoffs. Un Promis David qui était très incertain avant la rencontre, parce qu'il est sorti à la mi-temps lors du match, le deuxième match contre le club de Bruges, qui a raté un penalty. Donc, tu vas pas pouvoir avoir un Burgess qui va venir te sauver comme ça de la tête à chaque match. Donc ça va falloir que ils retrouvent cette efficacité offensive qui leur a fait défaut, mais malgré ça ils ont quand même fait un 7-9 en jouant deux fois contre Bruges et en jouant contre le vainqueur de la phase classique. Donc ils ont, pour moi ils ont tout pour être champions, et j'espère qu'ils vont être champions, parce que avec ce qu'on a connu dans les années précédentes, je souhaite aux supporters de l'Union de vivre ça, et même aux dirigeants et aux joueurs tout simplement.
Malgré un petit coup de moins bien d'ailleurs hein, de Franjo Ivanovic qui est moins bien là sur ses dernières rencontres, qui est un joueur exceptionnel, mais où il y a aussi parfois aussi un problème de régularité sur les 90 minutes d'un match.
C'est notre intensité, c'est les playoffs, tu joues contre les meilleures équipes et tout. Je pense que tu peux pas garder un rythme au top du top à chaque match.
Par contre, Ivanovic, j'ai l'impression qu'il est en train de forcer pour essayer de mettre le ballon au fond, toi.
Ouais.
Quand tu regardes le match face à Genk, il y a 2-3 fois, il a des solutions avec des coéquipiers tout seul, et tu vois qu'il veut essayer de retrouver le chemin des filets. Et
ça fonctionne à la confiance.
Voilà, ça. Et, mais il force un peu trop, donc j'espère qu'il n'y a pas des matchs où ça va lui porter préjudice aussi, toi. Et par contre, Promis David, je crois qu'il jouera pas ce week-end. Apparemment, il est encore plus incertain que.
Et t'as Van de Peur qui est suspendu aussi.
Ah, ouais. Ça peut avoir une conséquence sur la rencontre.
Christian Burgess aussi, il est suspendu, je pense.
Oui.
Ok. Oui, donc là, forcément, ça va être vachement une.
Du coup, toujours 909.
Ouais, quand même.
Tu gardes la confiance.
Ouais, je garde la confiance.
Ouais, ben, je peux comprendre aussi, effectivement, parce que cette équipe semble quand même mentalement intouchable. J'ai pas l'impression qu'on peut les atteindre de ce point de vue-là, en fait.
Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont devenus une famille. Ils sont devenus un groupe d'amis et tout. Comme on a parlé avec Padel, qu'ils ont eu qu'à Aral. Et ce qui fait pour moi la différence, notamment avec le club comme Anderlecht, c'est vraiment cet esprit de collectif.
Ouais.
Et parce que c'est les mêmes joueurs qu'en octobre, ils étaient proches de la zone rouge et que Pocognoli était proche d'être viré. Hein. C'est exactement la même équipe. Hein. Donc c'est vraiment, je pense qu'ils ont vraiment travaillé. Et je pense que Kevin Miralas aussi fait un bon travail. Les assistants, les adjoints et tout ça font un bon travail pour vraiment souder une équipe. Il y a rien à faire. Tu gagnes pas les matchs que parce que t'es bon au football. Tu gagnes les matchs parce que tu fais les mettre pour ton coéquipier, parce que tu cours, parce que tu travailles. Et donc je pense qu'ils ont vraiment tous travaillé ce mindset assez bien.
Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut les faire tomber.
Que eux, ils ont leur sort entre leurs mains, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une équipe qui peut les faire tomber. C'est Anderlecht ce week-end, c'est le derby bruxellois. Après, ils joueront les deux dernières équipes. Donc, c'est vraiment, il y a que eux qui peuvent les faire tomber.
Ouais, et en plus, au niveau de la confiance à Anderlecht, on n'est pas non plus à son firmament. Hein. C'est très, très compliqué avec la Coupe de Belgique perdue. Eh bien, on va continuer avec le d'accord, pas d'accord. Vous pouvez reprendre vos pancartes, messieurs. En s'imposant encore face au Standard de Liège en Play-off 2, Charleroi a prouvé qu'il pouvait sortir l'équipe qui terminera cinquième donc des Champions Play-off cette saison. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ça? Est-ce que Charleroi peut le faire, battre le cinquième des Champions Play-off? On est d'accord du côté de Xavier, on est d'accord du côté de Tantin, on est d'accord du côté de Fadel. Ah, ouais. Du coup, t'as regardé un peu Charleroi, t'es de la région, toi?
Ouais, j'ai regardé même pas mal de fois. On l'a même joué cette année en amical. Et c'est une équipe que j'aime beaucoup cette année par rapport au football qu'ils proposent. Des fois, ils ont été en manque de réussite. Là, maintenant, il y a Stulic qui trouve pas mal le chemin des filets. Donc, non, c'est une équipe qui, je pense, peut faire quelque chose contre l'équipe qui terminera cinquième.
Ouais, c'est intéressant aussi le football qui est développé par Charleroi. Tu le dis toujours vers l'offensive. Mmh. Et même sur les 20 premières minutes contre le Standard, je ne vois que Charleroi.
Après, je ne l'ai pas trouvé bon de manière générale sur le match.
Dans le début de match, ils sont très bons.
Dans le début de match, mais après, je trouve que c'était pas le Charleroi des derniers matchs qu'on a connu. Je m'attendais quand même à un peu plus de domination de leur part, surtout contre une équipe du Standard. Même le banc, quand le banc est démobilisé, le nombre de joueurs qui sont absents ou autres. Donc, je m'attendais quand même mieux. Après, ils ont pris l'essentiel, c'est prendre les 3 points dans un derby qu'ils avaient plus gagné là-bas depuis longtemps. Donc, à voir aussi, même, il y a des gestes que j'ai pas trop aimé, comme le geste de Petris, le geste d'Eymans, ça c'est des choses que j'aime pas trop voir, même pour les jeunes qui regardent la télé. Non, tu peux pas cautionner ça, je trouve.
Après, tu peux demander à Fadel, quand t'es dans le match, quand t'es dans les duels, etc. À un moment donné, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas des gestes à avoir, d'une manière générale, mais tu sais que quand t'es footballeur professionnel, tu dois savoir aussi te battre face à ton adversaire. Et il y a parfois un petit coup de coude qui sort.
Oui, mais fallait intelligemment, en fait. Ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont surfé 2 fois, sont proches de la carte rouge, hein. Parce que pour moi, si tu mets rouge à chaque fois aux deux, que ça soit à Petris, ou que tu mets rouge à 0-0, t'as ton bac droit qui prend rouge. Eymans, c'est plus en fin de match sur Sotiris. Mais c'est attention, quoi.
Oui, bah après Eymans, c'était une faute un peu crapuleuse. Ça, c'est différent. Dans l'intensité.
C'est des gestes qu'on n'aime pas voir.
Ce que fait pour se débattre, Petris dans son duel, c'était face à Lorenz, je pense. Oui. c'est franchement quelque chose qui peut arriver dans un duel. Ah mon dieu, tu m'ennuies un peu trop, je vais te chatouiller la vareuse. Ouais, voilà, c'est des choses qui arrivent. Tu peux pas reprocher
rouge à cause de ça. Il a Jane Jones, non?
Ouais, on a vu combien de rouges pour ça.
C'est ça, il a déjà Jane Jones, hein, à ce moment-là.
Ouais, mais il va pas au bout de son geste, il a compris, hein. Dans l'instant, il arrête, hein. Il arrête, hein. Sur la seconde, il arrête. Il le touche pas,
Oui, il le touche pas encore un peu.
Le geste, il part. Et là, il te fait un coup de coude comme dans Chiquita. Hein, boum, ça part. Et puis ensuite, il arrête. Donc, tu peux pas vraiment lui reprocher quelque chose là-dessus, Quentin.
Son intention de vouloir faire le geste. Mais sinon, ouais, pour Heyman, là, lui, c'était complètement crapuleux. Et tu le vois qu'il va avec l'envie, tu vois sur son visage, ouais, tu vois, il a détermination. Ouais. Tu vois qu'il y va comme ça.
Je pense qu'il va vraiment prendre la rouge.
Ouais. Fadel, c'est difficile, hein, quand on est joueur de lutter avec le petit démon qui est en toi, qui te donne envie de mettre.
C'est dur, c'est dur. Des fois, tes émotions prennent le dessus. C'est là où les joueurs les plus forts, ils arrivent à contrôler ça. Mais contrôler, c'est pas facile, hein, des fois. Donc,
faire de la méditation.
Ah, ça, je sais pas, chacun sa manière, mais s'il y avait une formule, je pense que tout le monde l'apprendrait.
Et toi, tu arrives à gérer tes émotions pendant les rencontres?
Tu caches pas, il y a des fois ça dépasse, hein. Des fois, il y a un petit geste qui part, ou même une petite parole qui part, mais je pense que c'est pour tous les joueurs, ça.
C'est pas mauvais, quoi, c'est pas méchant. C'est le plus important, que ça reste quand même dans le cadre du jeu. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur ce match, Petris aurait pu être sanctionné. Mais dans la rencontre, franchement, moi, il y a un joueur qui m'a absolument impressionné. J'aurais pu le mettre dans mes joueurs de la semaine, j'y ai réfléchi. C'est Yacine Titraoui. Je trouve que Yacine Titraoui, dans son impact.
Attention, parce que sur le goal qui marque Charleroi sur la contre-attaque, l'erreur qu'il fait, où c'est un centre où Ntongi passe proche de la mettre, sur la contre-attaque là, que Charleroi marque, c'est une énorme erreur de lui, hein.
Ah, mais il travaille énormément. C'est un joueur de ballon, qui a des qualités individuelles qui peuvent vraiment s'implémenter.
Oui, il restera pas très longtemps à Charleroi, je pense que c'était fort, hein. Il a notamment été voir son ami Ben Taleb algérien à Lille ici contre Marseille. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont être intéressés par lui cet été, donc Charleroi, je pense, pourra faire une très très belle plus-value sur sa vente.
Et généralement sur le niveau, parce que pour revenir sur la question, vous pensez donc majoritairement que c'est possible de les voir battre soit le Royal Antwerp Football Club, soit la Gantoise. Qu'est-ce qui peut faire la différence dans cette confrontation éventuelle et potentielle, Xavier?
Bah, déjà, la différence dynamique entre les deux clubs, parce que, quoi qu'il arrive, en playoff 2, ben, Charleroi, c'est quand même un club qui gagne la majorité de ses matchs. De l'autre côté, t'as un club qui perd quasiment tous ses matchs, donc, dans la mentalité,
l'ascendance psychologique.
Oui, ça fait beaucoup, et tu vas arriver contre une équipe qui peut pas perdre, et contre une équipe qui a tout à gagner. Donc, Charleroi, ils vont arriver normalement un peu moins de pression ou autre. Pour un moment, ils jouent bien, ils ont toujours fait des bons matchs, même contre les bonnes équipes, ils ont fait des bons matchs pendant la phase régulière. Mm-hmm. Ici, je pense qu'ils joueront contre l'Antwerp pendant la phase régulière, ils les ont battus aussi. Enfin, le match retour, ils les ont gagnés, ils avaient perdu l'aller, mais bon, soit. Donc, de manière générale, ils ont les clés en main et Charleroi n'a pas de pression. Donc, ça va vraiment faire la différence. Parce que, par exemple, l'Antwerp, pour le moment, déjà sans Janssen, déjà avec lui, c'était compliqué de marquer et sans lui.
Mohamed Bayo n'est pas vraiment une réussite, hein. Ouais, son prêt en tout cas est un échec.
Ils ont fait contre l'équipe C d'Anderlecht jeudi dernier, ça fait peur, hein.
Ouais, puis derrière t'as les autres joueurs qui sont plus non plus. Enfin, Thierry, début de saison, il faisait tout le temps la différence. Maintenant, il est dans le dur aussi, donc.
C'est compliqué. Bah, il a 36 ans.
Ouais,
c'est pas non plus.
Ah ouais, mais faut pas lui en vouloir, toi. Mais je veux dire, quand on voyait son début de saison, on s'attend à ce qu'il fasse encore la différence maintenant. Ouais. Et maintenant, c'est plus compliqué. Il a peut-être moins son compère avec le manque de Janssen devant. Il a pas les automatismes avec Bayo, donc. Tout ça, ça fait que. Et Charleroi, c'est quand même une équipe qui maintenant ne change quasiment plus, alors que début de saison, ça changeait beaucoup niveau attaque à autre. Donc les automatismes qui arrivent aussi.
Ah oui.
Et ça, ça peut faire la différence.
C'est très bien que tu le dises, parce que franchement, sur le début de rencontre, je sais pas si tu as vu le match Fadel un peu
sur Charleroi.
Le début de rencontre, la combinaison jeu court entre Petris d'un côté pour aller chercher Bernier dans la profondeur, Petris qui revient. Waouh, ça bosse, hein. Ça bosse à l'entraînement.
Tu sens qu'ils se connaissent, hein. Tu sens que, voilà, comme ils disent, les automatismes sont là. Et ils parlent tous le même football. Donc, ça se ressent et ça se voit directement sur le terrain. Franchement, c'est une équipe qui tourne bien. C'est rodé. Ça voit que ça travaille bien aussi à l'entraînement. Donc, non, il y a vraiment quelque chose à faire pour Charleroi cette année.
Il va falloir encore ajuster un petit peu les centres. Parce que sur des occasions, je me dis, en fin de rencontre, ça peut faire 2-0 facilement s'il ajuste son centre au bon moment sur Stulich. Faut encore, je dirais, paramétrer encore mieux ce type de choses à l'entraînement. Il faut affiner. Mais il y a un potentiel, en tout cas. Je trouve que la barre, en termes de potentiel à Charleroi, elle est pas du tout pleine. C'est-à-dire que pour moi, c'est une équipe qui est peut-être à 60-70% de son potentiel maximum, qui va pouvoir aller chercher peut-être justement, dans cette rencontre de barrage contre le cinquième éventuel des Champions Playoffs, encore un niveau supérieur, et notamment dans cet aspect-là. Le match, ils doivent le tuer beaucoup plus facilement.
Bien sûr, on a notamment vu dans la physionomie de jeu, t'as un Zorgan qui était vraiment pas content hein, à la mi-temps, parce que lui veut le ballon dans les pieds, Titraoui à côté veut le ballon dans les pieds, et les défenseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient vers Stulic et vers Heymans.
Ouais.
Et on a aussi entendu Rick Demil qui avait pas été content là-dessus non plus, qu'il y avait les joueurs qui, il y en a qui voulaient des choses, l'autre voulait l'inverse. Donc je pense que ça va être aussi important, parce que dans un match contre l'Antwerp, il faut qu'ils soient tous dans la même idée.
Bon, Fadel, on a parlé du côté positif de cette rencontre, on est obligé de parler du côté négatif, c'est donc forcément le standard. Mm. Franchement, toi qui as été une pépite au standard, quand tu vois cet état de décrudescence dans lequel est tombé le club, qu'est-ce que ça te fait?
Ben, ça m'attriste quand même un peu, parce que mine de rien, c'est un club qui a compté pour moi. Et de voir l'état dans lequel il est actuellement, moi, ça m'attriste un peu, franchement. Je trouve ça dommage. Le standard, ses supporters, surtout, ne méritent pas ce qu'on voit actuellement.
Alors, on va quand même faire une petite répétition des faits pour ceux qui n'ont pas été informés ou qui ne le savent pas. Il y a eu forcément la manifestation, juste avant le match, de la part des supporters qui n'étaient pas d'accord avec tout simplement la nouvelle prise de position en tant que nouveau CEO du club de Giacomo Angelini. Il y a eu des discussions. Le 13 mai, il devrait y avoir une nouvelle assemblée avec ce qu'on appelle la famille des Rouges, donc c'est-à-dire le rassemblement de tous les supporters, où il pourrait y avoir un vote. En fait, entre les différents supporters et la menace qu'a fait en fait Giacomo Angelini, on peut vous la révéler ici en exclusivité, c'est de dire que les supporters auront le droit de dire si oui ou non le projet est tenu par Angelini. Si oui ou non c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, il pourrait partir. Donc il y aurait un vote où les supporters pourraient dire non, on ne croit pas en ce projet-là, et derrière ça sort. Le problème des supporters, c'est qu'ils disent on ne veut pas être responsable de la fuite en avant de la part du club. Si ça ne va pas, on ne veut pas être tenu comme responsable en disant non mais c'est à cause de vous, parce que vous avez dit que le projet ne tenait pas. Non, vous me tenez le projet, et surtout vous me le tenez bien fort, et à un moment donné vous prouvez que vous avez eu raison par rapport à ce que vous faites. C'est vous le patron, nous on n'est que des supporters. C'est un peu comme ça que les discussions se sont tenues. Donc il y a eu évidemment cet aspect là il y a le refus de ton directeur sportif, David Verweijen, qui a refusé de devenir le co-directeur sportif, on va dire directeur du recrutement du Standard de Liège. Il devrait y avoir il y a eu le licenciement également de Scout. On est dans une situation où financièrement, on va descendre à moins 20%, donc on va couper clairement dans les frais dans chaque secteur de l'entreprise SA Standard de Liège. Le déclin également, ou plutôt je dirais le refus de Julien Gorius, qui ne veut pas donc être directeur sportif. Il y a eu également auparavant celui de Tim Matthijs et celui de Roel Vaillens. Voilà la situation dans laquelle le Standard se trouve. Voilà dans quelle problématique on est.
Ça fait beaucoup là, non?
Ouais. Ça fait beaucoup. Quentin, supporter du Standard, témoigne. Voilà.
Ça même, parce que je reste neutre dans tous les cas, je reste objectif, mais ça fait beaucoup. Et n'importe quel club, c'est pas possible d'être viable et de gérer une saison comme ça. Ils ont la chance, c'est que l'année prochaine, comme on le disait, que ce soit le même cas pour l'Aubière, c'est qu'il n'y a qu'un descendant, donc ils peuvent être dans cette année de transition. Et donc ça pourrait être intéressant justement de commencer la saison avec vraiment un tout nouveau président et un tout nouveau propriétaire, et vraiment qu'ils prennent cette saison de préparation pour quand la phase classique arrive, on a de nouveau un standard de Liège prêt. Mais là, c'est pas des bonnes nouvelles à chaque fois, et j'ai l'impression que chaque semaine, il y a à chaque fois une mauvaise nouvelle qui se rajoute. Donc ça va être très compliqué, et on a l'impression qu'à Cap n'a pas trop envie de lâcher l'affaire. Donc ça va être très 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 compliqué, et je ne sais pas vers où ça pourrait se diriger.
Et le pire, c'est que les supporters, quand tu regardes sur les réseaux, etc., à la limite, ils prennent ça à la rigolade. Dans le sens, ils disent, allez, on va encore avoir une blague, allez, on va encore avoir quelque chose. En route pour le 30 sur 30, tu vois, pour le 30 matchs sans victoire en Euro Playoff, c'est problématique quand même.
Ça, c'est pas l'ADN Standard, ça. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est tombé quand même bas pour en arriver là. Et c'est là où je dis que c'est vraiment dommage. Le Standard, c'est un club que tout le monde connaît pour jouer le haut du tableau, voire même le titre. Et là, on en vient à dire, 30 matchs sans victoire, ça, c'est triste.
Dans cette situation-là, tu peux comprendre les refus? Celui de David, celui de Julien, celui de Tim, est-ce que tu peux comprendre aussi que les gens, dans leur situation personnelle, disent, mais moi, je vais pas aller me mettre dans un bourbier pareil?
Ouais, bien sûr, notamment Gorus qui vient de faire du bon travail avec Dender, qui a sauvé Dender. David, on le connaît depuis des années, il fait du travail exceptionnel à la RAL. Chaque fois, il nous ramène des joueurs sortis de nulle part qui performent. Il va pas aller se mettre dans un bourbier pareil pour entacher son image, ça a pas de sens. Donc non, moi je peux comprendre les refus.
Et le Standard qui viendrait éventuellement vers toi dans la situation dans laquelle tu es actuellement avec la Louvière, est-ce que c'est toujours quelque chose qui pourrait t'attirer ou pas? Après, dans le cadre de ton statut de joueur, parce que c'est pas la même chose avec
les Raptors. Mais après, là, moi, je suis pas objectif parce que comme c'est dit, le Thunder, c'est un club qui a compté pour moi. Donc, c'est difficile parce que là,
centre de formation, ouais, etc. Ouais, bien sûr.
Là, maintenant, c'est la râle mon club, c'est la râle mon employeur. Mais ça, c'est.
Ça veut dire que t'aurais quand même, il y aurait quand même ce petit truc du cœur qui jouerait. C'est tout ce qu'on veut savoir.
Après, je pense pas que je suis très bien à la râle pour l'instant.
Voilà. Donc, le cœur ou la raison a-t-elle tort? Ça, c'est pour Shakespeare et pour Molière, mais c'est pas pour cette émission. Mais la vérité, c'est ça. C'est que c'est souvent une question d'émotion et de réfléchir où est-ce qu'on va, etc. Ouais. David est quelqu'un de très cartésien, ingénieur de formation. Donc lui, il a très, très vite fait le calcul. C'est pas la même chose.
Mais c'était bien tenté du Standard. Parce que pour moi, c'est un quelqu'un comme David qui doit aller chercher. C'est un directeur sportif qui, parce qu'il y aura des moyens très, très, très limités, un peu comme ils avaient le cas à la RAL ne met pas vraiment le gros pactole pour attirer les joueurs, mais donc c'était plus avoir quelqu'un qui arrive à dénicher des joueurs un peu sous les radars. Ouais. Et j'ai clairement l'impression que au Standard, c'est clairement ce qui manque depuis déjà quelques années. On n'a pas vraiment ce joueur qui sort, tu dis oh oui, il vient de nommer Kaljou en Estonie, il performe tout. Ah, il vient de la deuxième division suédoise, il performe tout. Un peu ce que font les grandes équipes du championnat belge, comme l'Union ou autre, qui arrivent à aller chercher un joueur qui sort des radars et le faire performer. Et donc j'ai l'impression que le Standard, est-ce qu'il payait beaucoup de scouts ou autre, je sais pas, mais je trouve que le travail n'était pas là. Donc là, dans le sens, ils ont besoin d'un directeur sportif qui, avec des moyens très limités, arrive à aller chercher des gros coups de poker.
Ouais, et puis le fait d'avoir donné cette grosse responsabilité à Pierre-François aussi en tant que CEO, c'est problématique parce que quelque part, tu récupères un peu, tu manges un peu de la fonction d'un directeur sportif chez Pierre-François qui, au RFC Liège, il faut le dire, faisait beaucoup de choses. Il négociait, il allait passer des coups de fil aux agents, parfois même recrutait lui-même des joueurs quand il avait des idées parce qu'il en avait le pouvoir. Ici, au Standard, on lui a quasiment donné les mêmes prérogatives.
Il a un réseau, donc ça va aider aussi le Standard. Je pense que c'est une bonne chose aussi de l'avoir parce qu'il a quand même un réseau du championnat belge, un réseau de joueurs et tout, d'agents, comme tu le dis et tout. Donc, on sait que les clubs fonctionnent beaucoup là-dessus. Donc,
ah, c'est intéressant. J'allais te poser la question aussi à toi, Xavier. Bonne idée ou écran de fumée, Pierre-François?
C'est les deux pour moi, je pense. Parce que c'est une bonne idée, parce qu'il connaît bien la maison, il a un super réseau et il a toujours fait du bon boulot. Et à côté de ça, je pense que c'est un peu un écran de fumée aussi pour rassurer le supporter. Tu ramènes quelqu'un que les gens connaissent, qui a fait du bon boulot. Donc, ça permet de calmer un peu le supporter également. Mais à côté de ça, je pense que c'est une personne qui a fait, comme je l'ai dit, qui a fait du bon boulot. J'espère qu'il fera encore du bon boulot ici également. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu les deux par rapport à ta question.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il est capable aussi, tel un Rottweiler, de venir aller mordre un peu dans les mollets, d'aller chercher, d'aller gagner des batailles, notamment au niveau juridique. Et si le Standard, par exemple, doit aller en appel sur une carte jaune, etc., il savait le faire à l'époque, hein, donc on le connaît. Est-ce que c'était ton époque également, ça, Pierre-François? Non, toi, t'es arrivé après, à l'époque Venanzi, quand Bruno avait récupéré le club. Donc ça, c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'effectivement, il se battait bien quand il fallait gagner des duels en dehors du terrain, Pierre-François. Donc ça aussi, c'est une grande qualité. Globalement, ce Standard-là, comment est-ce qu'on le voit évoluer pour la saison prochaine, Quentin?
C'est impossible à dire. Personne ne pourra le dire. Il y a tellement le flou.
Dans le jeu. Je parle dans le jeu.
Ah, dans le jeu. Ouais. Ça aussi, c'est même pas le dire. Est-ce que les joueurs, honnêtement, perso, je suis joueur, j'ai pas envie d'aller au Standard. Parce que déjà, tu sais pas si encore avoir les mêmes problèmes de finances. Est-ce qu'ils vont être payés, comme il y a eu le cas ici au mois d'octobre et de novembre? Tu sais même pas l'ambiance que ça va être. C'est pas les joueurs que ça va être. C'est pas le coach s'il va rester. Il y a tellement de zones troubles et tu peux pas avancer là-dedans quand c'est en zone trouble.
Et je vais poser ma question différemment et Fadel, tu vas pouvoir y participer parce que tu as joué au Standard dans un autre système de jeu. C'est pour ça que je l'aborde. Est-ce que le 3-5-2, c'est vraiment mentalité
Standard? Non, c'est 4-4-2. Tu dois jouer avec deux attaquants. On a toujours connu le Standard avec deux attaquants. Tu joues à Sclessin, excuse-moi, mais qui est dans un public comme ça. Tu joues avec deux attaquants, l'adversaire, tu dois le prendre à la gorge. Tu dois l'attaquer directement et tu dois avoir des joueurs techniques. Tu dois avoir des joueurs, je le dirais pas à chaque fois, mais des game changers, des joueurs qui t'éliminent en un contre un. Tes ailiers, ça doit être des tueurs techniques et tout. Ils peuvent t'éliminer le back et puis le centrer aux deux attaquants. On a connu des Mbokani, Jovanovic. Je vais pas citer à chaque fois tous les duos, mais on a connu des duos très très bons au Standard et c'est le Standard doit jouer sur un duo comme ça.
T'es après, là où je vais un peu tempérer, c'est que le style de joueur que tu as cité là, moi personnellement, je ne les vois pas vraiment là actuellement au Standard. Donc si maintenant je suis coach, ok, je dois faire plaisir aux supporters, mais je dois garder mon poste aussi. Ça veut dire que je vais jouer dans un système qui va me permettre
de
prendre des points, ce que l'écho a fait, même si c'était pas forcément beau, ça va me permettre de prendre des points, sauver le club. Ça me fait mal de dire sauver le club en parlant du Standard, mais bon, sauver le club. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et si maintenant moi je suis coach au Standard, est-ce que je jouerais 3-5-2 ou pas? Je sais pas, je jouerais dans le système qui va me faire prendre des points. Donc si c'est le 4-4-2, je joue en 4-4-2, mais à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit le système adéquat pour le standard.
Ivan Leko, il a parlé aussi des individualités en disant je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je peux.
En fait, il fait avec son groupe parce que vu le groupe actuel du standard, comment tu joues en 4-4-2, t'as pas de back gauche, pas de back droit. Camara, il est bon, Fossé, il est bon, mais en tant que piston, ils sont bons offensivement. Mais si tu joues une défense à 4 défensivement, ils sont souvent pris dans le dos, ils font pas de tour. Ils font beaucoup de travail défensif, mais c'est pas des vrais arrière-droit et arrière-gauche. Donc si t'as pas ça dans ton groupe, tu joues comment en 4-4-2?
Moi, je parlais du système idéal pour le standard. C'est le système idéal du standard à domicile. C'est un 4-4-2. Maintenant, clairement, il n'y a pas photo que là, avec les joueurs qu'ils ont, déjà, ils ont plein de défenseurs centraux. Donc, tu dois jouer en 3-5-2. Mais maintenant, qui va rester? Qui va partir? Tu sais pas. Et je pense qu'il y aura encore un nombre incalculable de joueurs qui vont potentiellement arriver, potentiellement partir. Donc, est-ce qu'après, il y aura des joueurs pour faire un 4-4-2 la semaine prochaine? On verra. Je pense qu'il peut le tenter. T'as qu'un descendant. Tente-le, au moins. Mm-hmm. Vois quelque chose, tente quelque chose, fais quelque chose. Essaye de redynamiser ça parce que là, ça va pas.
Et vu que t'as qu'un seul descendant, ça serait bien de prendre des joueurs peut-être moins, entre guillemets, moins qualitatifs, mais des achats et pas des prêts. Comme ça, vu qu'il y a qu'un seul descendant, tu peux préparer la saison d'après encore.
D'accord. Eh bien, messieurs, merci pour ce débat sur le standard. On va passer au match de la semaine, bien évidemment. C'était la finale de la Coupe de Belgique, remportée, bien évidemment, par le club de Bruges, 2-1, sur un but, 2 buts, d'ailleurs, de Roméo Vermaet et une égalisation signée Luis Vázquez. Ce match va pouvoir peut-être déjà nous permettre de faire un bilan d'un côté à Anderlecht et de l'autre du côté du club de Bruges. La première question sur Anderlecht, elle est très simple. Est-ce qu'Anderlecht a d'ores et déjà raté sa saison? C'est fait, c'est officiel, Quentin?
Oui, ils ont raté leur saison. Parce que quand tu t'appelles Anderlecht et que ça fait 8 ans que tu n'as plus eu un trophée, tu dois avoir un trophée, tu dois te battre pour un trophée et tout. Ici, ils avaient la meilleure occasion, la coupe, pour justement casser cette mauvaise série. Et c'était un échec. Donc, pour moi, la saison, elle n'est pas réussie. Tu peux pas dire qu'en championnat, avec une 4e place, quand tu t'appelles Anderlecht, c'est une saison réussie. Surtout que tu as quand même des salaires. Tu payes un Edosi en prêt de 60 tonnes très cher. Tu payes un Thorgan Hazard. Tu as fait revenir un Dundonker. Tu as quand même des joueurs qui ont un nom. Tu as un Dolberg devant. Tu peux pas te contenter de ça quand tu t'appelles Anderlecht.
On va y venir sur justement les débriefs un peu individuels des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui répondent pas du tout aux attentes dans cette équipe d'Anderlecht. Xavier, par rapport justement au fait que Anderlecht est réussi ou plutôt raté sa saison, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Moi, je pense que la saison, je pense qu'on peut dire réussi. C'est vrai que pour Anderlecht, tu dois sortir avec un titre, mais honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, comment tu veux qu'Anderlecht fasse plus? Ils sont clairement inférieurs au top 3 championnat. Et en coupe, malheureusement pour eux, d'habitude en coupe, il y a toujours une petite équipe qui arrive en finale. Et là, ils se sont retrouvés face au club de Bruges.
Et qu'est-ce qu'ils ont réussi pour cette saison?
Ben, ils ont cherché une place européenne, la 4e place, ils n'auraient pas pu faire mieux. Même si tu t'appelles Anderlecht, à l'heure actuelle, comment tu veux faire mieux? C'est pas possible.
Alors, paye pas des salaires comme ça si tu te contentes de ça.
Ouais, je comprends. Fadel, tu voulais intervenir?
Moi, je suis un peu du même avis, dans le sens où s'ils ont raté leur saison, ce serait pas le même oui, ce serait un tout petit oui. Parce que, comme il dit, à l'heure actuelle, le top 3, il est clair. Et je pense qu'Anderlecht est juste en dessous, donc ils sont à leur place. Et après, tu fais quand même une finale de coupe que tu perds contre Bruges. Là où une des meilleures équipes du pays.
Ouais. Donc, si tu arrives en finale face à un autre club, je dis pas, tu vois. Ouais. Par exemple, genre, comme Malines qui a fait deux finales il y a pas si longtemps que ça. Et que tu perds ta finale de coupe face à, sans manquer de respect à Malines, mais un club moins huppé que le club de Bruges. Là, tu peux dire que sa saison a raté. Mais malheureusement pour eux, tu te trouves en finale face au club.
Ça t'a apporté quoi de perdre en finale? Rien. Si tu perds en quart de finale, tu perds en demi-finale, tu perds en finale, ce qu'on retiendra, c'est que t'as perdu. Tandis que si tu la gagnes, là, on pouvait dire que c'était une saison réussie pour moi. Parce que tu avais ce trophée, tu avais quelque chose entre les mains, t'as quelque chose d'historique. Tu coupais cette série de 8 ans sans trophée. Ici, t'as perdu. Si Anderlecht avait perdu en demi-finale ou en quart, ils auraient quand même perdu.
Mais je pense que vous n'appuyez pas, messieurs, sur le problème fondamental, qui est, selon moi, vraiment la raison pour laquelle Anderlecht ne va pas bien, c'est qu'Anderlecht ne fait plus peur. Anderlecht n'inspire plus aucune crainte. Anderlecht n'est plus respecté. Anderlecht, on peut leur marcher dessus et il y aura aucun problème. Comment on retrouve, projetons-nous directement, une équipe à un moment donné de méchants? Parce qu'on est c'est des gentils.
Exactement.
C'est des gentils, donc, c'est des sympas, c'est des mignons. Faut arrêter.
Tu peux pas dire que c'est une saison réussie quand c'est ça. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. On l'a vu ici en finale de la coupe. Donc une grinta. T'as rien sur le terrain, t'as pas un joueur qui va aller mordre les chevilles, mais gentiment,
oui, mais
tu vois, qui va y aller, un tueur dans le milieu de terrain, qui va mettre, voilà, premier duel, c'est moi le patron, pas de faute, mais il y va au corps, il y va un homme, quoi. Non, là, je suis d'accord avec toi.
À 2-0, excusez-moi, bon, forcément, il y a l'erreur, le superbe dribble de Dozier qui donne ce but pour Luis Vázquez, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun sentiment de révolte. Il y a pas ce sentiment, malgré ce but miraculeux en fin de match de Luis Vázquez, que Anderlecht, au fond du fond, t'inquiète pas, c'est 2-0, quoi qu'il arrive, la grinta y sangre, ils vont pouvoir revenir de ce match.
Mais moi, je pense que le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de stabilité dans ce club-là. Entre guillemets, les joueurs, ils arrivent et ils partent tout le temps. Regarde, par exemple, dans ceux qui étaient titulaires dimanche en finale de coupe, il y en a combien qui étaient là l'année dernière? Je pense à un club Anderlecht, pour que Anderlecht refasse peur à l'avenir, il faut de la stabilité dans le club. Regarde, par exemple, tu prends l'exemple d'un club de Bruges, même de Genk, même de l'Union, un peu différent, mais de manière générale, t'as quand même la même ossature qui reste, et t'as un ou deux joueurs qui changent, qui s'adaptent. Ici, Anderlecht, par exemple, ici, c'est que des nouveaux joueurs, quasiment. Mm-hmm. À part Kaufmann, c'est Dolberg, et Hazard, mais bon, il a été longtemps blessé. À part ça, c'est que des joueurs qui étaient pas là avant. Comment tu veux qu'ils aient l'esprit Anderlecht? Ok, Anderlecht, c'est un grand club, on doit faire peur, on doit dominer l'adversaire ou autre. C'est que des joueurs qui connaissent pas Anderlecht, ils arrivent, ils font un an, ils repartent, merci, au revoir.
Oui, donc c'est un problème d'identité. Il n'y a pas assez de joueurs qui ont la patte ou qui se ressentent comme Anderlechtois.
Ouais, c'est peut-être ça. Il y a plus, on ressent plus l'ADN d'Anderlecht. Comme tu dis avant, qui faisait peur. Tu savais que si Anderlecht vient, voilà, déjà, ils viennent pour prendre les trois points, déjà.
Ouais.
Et puis après, ça va être difficile de leur enlever même un point. Donc, comme il dit, peut-être c'est l'ossature, amener des joueurs qui connaissent vraiment la maison, mm-hmm. ou qui ont été formés. Il y en a quand même pas mal, ça, par contre. Mais qui, je veux dire, qui vont amener Anderlecht là où Anderlecht doit être, quoi.
Ouais,
donc,
c'est ça.
Je sais pas quelle est la formule miracle, mais en tout cas, ouais, je pense qu'Anderlecht doit trouver son identité.
Mais du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on a mis un coach, en tout cas, on a viré un entraîneur pour en mettre un autre parce que soi-disant il avait l'ADN Anderlecht, etc. Ça n'a pas fonctionné. Question très simple. Est-ce qu'il faut virer Bechnikazi?
Non, moi je pense que c'est trop tôt. Il arrive en cours de saison. Justement, là, il va avoir toute la préparation pour vraiment mettre sa patte sur cette équipe.
Il arrive en fin de contrat. Il a signé jusqu'au terme de la saison. Qui pourrait ne pas le prolonger, tout simplement.
J'espère pour lui qu'il va rester et qu'il pourra mettre vraiment sa patte sur son équipe, parce qu'arriver en cours de saison comme ça, je pense que c'est difficile pour un entraîneur.
Ok. Est-ce que Bechnikazi a montré suffisamment que pour pouvoir mériter de rester une saison supplémentaire à Anderlecht?
Comme il l'a dit, pour moi, il ne doit pas être licencié non plus, parce qu'il n'a pas eu le temps, tout simplement, pour montrer ce qu'il a. Puis il n'a pas les joueurs qu'il voulait non plus. Ça change beaucoup, parce que lui, on voit qu'il s'entête vraiment avec son 3DEF, et il a envie de jouer en 3DEF, donc peut-être que l'année prochaine, il construira son noyau là-dessus. Donc,
Est-ce que c'est Anderlecht de jouer 3DEF? Est-ce que c'est
non,
style Anderlecht?
Non, pour moi, non. Anderlecht, c'est 4DEF. Mais voilà. Là, alors, tu prends pas le coach là, parce que le coach là, il veut jouer en 3DEF. Donc, alors là, tu commences déjà directement avec un problème.
Mais c'est problématique. C'est problématique, parce que déjà, on parle d'identité, on parle de retrouver, machin, bazar. Effectivement, on dit que Bechnikazi est peut-être le sceau d'Anderlecht, etc. On veut le garder pour maintenir de la stabilité. Mais ce qui montre fondamentalement dans le jeu ne convient pas à ça, ne correspond pas à ce qui est dit dans les actes. C'est ça qui est problématique.
Les joueurs aussi, comme on en parle, il n'y a pas que l'entraîneur. On ne peut pas mettre toute la faute sur l'entraîneur.
Évidemment.
Parce que les joueurs sur le terrain ne font pas non plus le job et ne montrent pas la mentalité pour. Donc, ça ne l'aide pas lui non plus.
Donc, Xavier, je ne te demande pas qui pour le remplacer, du coup. Tu veux garder Bechnikazi aussi?
Moi, quoi, clairement, je reviens à ça, même comme a dit Fadel, en fait. Pour moi, pour juger un entraîneur, il faut lui laisser qu'il ait la préparation pour préparer son équipe. Et puis après, tu peux le juger début de saison, peut-être au mois d'octobre ou quoi, s'il est bon, s'il faut le garder ou pas. Mais un coach qui arrive en cours de saison, il fait, entre guillemets, avec ce qu'il a. Et tu peux pas le juger sur un coach. Pour moi, je trouve qu'un coach qui arrive en cours de saison, tu peux jamais le juger sur sa saison. Faut toujours le juger après avoir une préparation complète.
Ouais,
donc voilà.
Disons que le fait d'avoir perdu, des infos que j'en ai, la Coupe de Belgique, ça va pas jouer en sa faveur, et qu'on est déjà en train de travailler sur un listing du côté du Sporting d'Anderlecht, dans lequel figurent plusieurs noms que vous connaissez d'ailleurs assez bien, messieurs, mais je peux pas les révéler tout de suite. Mais à Anderlecht, on travaille déjà sur le futur. Les bilans individuels, on voulait y venir. Depuis le début de ce match de la semaine, on va se porter sur un homme qui pour moi est très important. Kasper Dolberg, on va y venir, je sais que vous voulez en parler, il y a pas de souci, il en sera question également. 2 ans plus tard, Jan Vertonghen. Eh oui, il faut en parler. Un des plus gros salaires du club. Est-ce qu'il a réellement apporté la plus-value attendue au RSCA maintenant qu'il va quitter le club en fin de saison? Quentin?
Non, on peut pas dire oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de trophées? Il était venu aussi pour ça, pour retrouver les trophées. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait 6 ans qu'ils avaient plus de trophées. Et puis, je comprends même pas, il est en fin de saison, enfin, fin de carrière, carrément. Mais, tu perds 2-0 en finale de la Coupe. Pourquoi tu fais monter un défenseur, s'il te plaît? Je comprends pas ça, tu vois.
Ouais.
Donc, ok, c'est Jan Vertonghen, il a le nom et tout, mais tu t'appelles Jan Vertonghen ou pas, c'est 2-0, reste sur le banc, je fais monter un attaquant, j'ai envie de tout donner vers l'avant, quoi. Donc, ça, j'ai pas trop compris.
Ouais, c'est compliqué. Jan Vertonghen, t'as suivi un peu ces deux dernières saisons, le fait qu'il ait eu beaucoup de blessures également, ça n'a pas aidé. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que ça reste une légende du football belge et qu'il a marqué énormément. Il sera d'ailleurs, on lui rendra hommage hein, d'ailleurs dans le match Belgique-Pays de Galles, ce sera le 4 juin prochain au Stade Roi Baudouin. Mais est-ce que vraiment il fallait le faire?
je pense pas que c'était vraiment une nécessité. Même si au moment où il arrive, on peut espérer à ce qu'il stabilise vraiment cette équipe et qu'il amène, comme tu dis, peut-être à une projection de trophée. Après, ça a pas été le cas. Donc, difficile. C'est facile. Enfin, je veux dire, c'est facile de juger après. Mais est-ce que vraiment ça a été une plus-value ou pas? Moi, je pense pas.
Voilà. Je parle pas de flop parce que pour moi, c'est pas le bon terme.
Voilà. Je dirais pas, flop, je dirais pas. Pas du tout. Mais plus-value ou pas, je pense pas.
À la base, il devait arriver pour quelque chose et il n'est pas justement arrivé à ses fins ou en tout cas à l'objectif que le club lui avait assigné au moment de sa signature. Mmh. C'est pour ça que je pose la question. Je me dis, aujourd'hui, on peut s'interroger aussi, Xavier.
Ben, moi, je trouve que la première saison, il a fait du bon boulot, qu'il a bien encadré Zeno de base, que je trouve un peu limite, mais je pense avoir un gars d'expérience à côté de lui, comme un Lanter avec Zeno van den Bosch et Toby Alderweireld, c'était utile. Après, malheureusement, ici, cette saison, il a été blessé quasiment tout le temps, donc... Tu peux pas le juger alors qu'il a jamais joué. Je trouve que l'année passée, il a bien encadré un jeune à côté de lui. Et je pense qu'on l'a ramené pour ça, pour encadrer les jeunes. Mm-hmm. Et donc, l'année passée, il a fait du bon job. Après, c'est pas une réussite, c'est clairement. Mais comme a dit Fadel, comme tu l'as dit, c'est pas un flop. Okay. Mais s'il aurait joué cette année, peut-être que ça aurait été différent.
Eh ben alors, mon Xavier, je vais m'attarder sur ton joueur de la semaine, de la semaine dernière. Ouais. Eh oui, ça par contre, il faut en parler. Leander Donker, est-ce qu'on peut stipuler l'accès en flop ou pas?
Ça oui. Il a fait une bonne semaine la semaine dernière, puisqu'il a été il a permis deux fois
bien
un drague de
36
sur 6. Mais à côté de ça, c'est vrai que cette année, il a rien apporté.
Eh oui, c'est un véritable flop. Leander Dundonker. Faut quand même, est-ce qu'on peut ouvrir le livre ou pas? Ou est-ce qu'on ouvre la page?
Si tu peux ouvrir la page et écrire flop si tu veux. c'est dommage. Parce qu'on l'a connu quand il était en Anderlecht, c'était un top joueur.
Tu le trouvais bon quand il était en Anderlecht?
Mais il c'était un bon jeune. Et puis après, même quand il était en première ligue, on disait que lui, de son endurance, de cette SVMA, c'était quelqu'un, quoi. Et la VMA, elle est partie, hein.
Oui, ouais, visiblement, c'est plutôt MMA. Ouais. C'est ça le vrai problème. Ah oui, Fadel, faut dire la vérité. On s'attendait à autre chose quand on a vu Leander Dundonker débarquer.
MMA carrément. ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis depuis qu'il a commencé en Anderlecht et je crois que c'était vraiment, vraiment un bon joueur, même en première ligue, tout ça. Et c'est vrai que le voir revenir, enfin, la manière avec laquelle il est revenu, la manière dont je parle sur le terrain.
Ouais.
C'est pas le Leander que j'avais connu avant.
Peut-être un excès d'embonpoint, peut-être le fait qu'il n'ait pas été tout simplement en forme physique. Ça aussi, quand on est joueur, est-ce que ça joue à ce point-là? Parce que je me rappelle d'une anecdote de Samir Nasri qui disait, moi j'ai perdu 10 kilos sous Guardiola, après je volais sur le terrain, c'est pas une métaphore. Tu le sens?
Ouais, tu le sens direct. En tout cas, moi, personnellement, si je prends 1 ou 2 kilos, je vais le sentir directement. C'est surtout dans la répétition des efforts. À haute intensité, tu sauras pas vraiment les répéter comme tu le fais au poids de forme. Et ça, tu vas le sentir directement au match.
D'accord, ok. Et c'est surtout sur les premiers à-coups ou surtout sur le fait de tenir le match jusqu'au bout?
Non, de tenir, parce que 1 ou 2, même avec des kilos en trop, tu pourras les faire. Mais sur la longueur du match, là, tu vas sentir que, ouais, il se passe un truc. Je suis un peu plus lourd ou je suis fatigué plus vite ou c'est comme ça, tu vois.
C'est intéressant. C'est vrai qu'effectivement, Leander Dundonker, on a souvent eu tendance dans sa carrière avant qu'il arrive à Anderlecht à le positionner comme un défenseur central. Et là, on lui demande d'autres choses à Anderlecht dans un rôle de milieu défensif, ce qui incombe forcément d'autres types d'efforts, un autre travail. Et je pense qu'il n'est tout simplement pas prêt. Il n'était pas prêt à ça.
Ouais, mais défenseur central non plus, parce qu'il était beaucoup trop lent. On l'a vu, le nombre d'erreurs qu'il a fait en défense centrale, c'était le dernier pare-choc avant Kuzmans. C'est compliqué, hein, je pense.
Tu penses qu'il n'avait pas vu les matchs de Leander Dundonker avant de le signer?
Ouais, c'est franchement, c'est une possibilité. Ça fait peur.
Ouais.
Si c'est le cas, ça fait vraiment peur d'une cellule de recrutement et de scouting.
Ils se sont dit, on va faire un nom, quoi.
Ouais, mais ils se sont peut-être dit, c'est Dundonker, on va reprendre Dundonker, mais.
C'est fou.
Ouais, après, on parlait tout à l'heure d'ADN du club. Donc, peut-être ça a joué
en
sa faveur.
D'office.
Il connaît le club, donc peut-être il va apporter un plus.
Et puis le dernier bilan, c'est évidemment Casper Dolberg. Là, je vais vous donner évidemment l'occasion d'en parler en long et en large parce qu'on a vraiment, vraiment l'impression que c'est un top dans les petites équipes et qu'il est absolument surcoté. Est-ce qu'il est surcoté fondamentalement pour le championnat de Belgique?
Non.
Parce que j'ai entendu beaucoup de supporters d'Anderlecht après le match crier au loup, hein, en disant c'est pas possible, il marque 2 buts contre Dender, c'est un génie, il en marque 4 contre Malines, c'est un phénomène. Mais par contre, quand on a besoin de lui dans les matchs importants, il y a rien. Il n'y a pas une seule note positive à donner.
Ouais, ça dépend ce que tu appelles le match important, mais voilà.
Ah, moi, j'écoute les supporters.
Donc, j'entends ce qu'ils disent. Le Standard, ils étaient contents qu'ils soient là, par exemple.
Non, mais légitimement, parce que c'est vrai que le Standard est-il un grand club aujourd'hui?
Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Hein.
Voilà. Est-ce qu'il est surcoté ou pas, ou est-ce qu'il est bon uniquement contre les bonnes équipes? Quelle est ton analyse?
Moi, je trouve tout simplement que c'est pour le vrai Anderlecht qu'on a connu, qui est dominant, qui fait peur, c'est un super joueur. Sauf que le problème, c'est que Dolberg, c'est un super finisseur, mais c'est pas le joueur qui va faire les travails défensifs, du contre-pressing ou autre. Donc, il faut que ton équipe domine Et c'est vrai qu'Anderlecht domine contre les petites équipes et contre les grosses, ils ont plus de mal. C'est Anderlecht qui est pas au top pour le moment. Mais si Anderlecht était beaucoup plus dominant dans son jeu, par exemple, tu mets à Dolberg, je pense, au club de Bruges, tu dis jamais qu'il est surcoté. Parce que t'as un club qui domine toujours l'adversaire. Et je pense que c'est le genre de joueur qui a besoin d'être dans un club qui domine.
Et tu penses que c'est un joueur qui pourrait réussir au club de Bruges?
Clairement, moi à 100%.
Moi, je veux contredire ce que t'as dit, parce que d'un point de vue des stats, sur les 19 buts de Dolberg, c'est 10 buts dans les matchs importants.
D'accord.
Donc, c'est plus de la moitié des buts dans les matchs importants. Donc, oui, il marque contre les grosses équipes aussi. Et moi, ce que je trouve, c'est tout simplement, c'est qu'il est pas bien servi. Tu lui mets un Hugo Siquet qui fait descendre comme Romain Overman t'a eu. Là, Dolberg, il va ceinture dans le rectangle et il va te mettre des goals.
Des fois, donc, tu comprends pas les critiques légitimes sur lui?
Non, parce qu'on s'est, des fois, on s'est déjà dit, mais Dolberg, mais comment il a fait pour la mettre au fond, là? Comment il a réussi à finir ça? Ça, c'est un vrai finisseur. Et il est tout simplement pas bien servi. C'est comme je le répète, tu mets un Decuyper à gauche, tu mets un Siquet à droite, qui ont des qualités de centre incroyables et meilleurs du championnat. T'inquiète pas que Dolberg, il va être meilleur buteur du championnat.
Donc, la priorité d'Anderlecht, cet été, c'est d'acheter des latéraux.
Si Dolberg reste.
D'accord. Mais quoi qu'il arrive, il faudra acheter des latéraux parce qu'il y aura un remplaçant à Dolberg. Hein.
Ah ouais,
il y aura un numéro 9.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'il faudra quand même avoir des joueurs meilleurs que Sardella et Ndiaye.
Mais il faut peut-être des milieux qui donnent des bons ballons tout simplement. Ça ne peut pas venir que des latéraux. Il faut que ton entrejeu te permette de faire jouer aussi, toi.
Mm-hmm. Vous trouvez comment Ali Mamar?
Il y a du bon, du moins bon. Est-ce que c'est le niveau pour un Anderlecht du top? Là, je pense qu'il y a.
Ouais.
Il y a un peu de suivi.
Je le trouve un peu mid.
Ouais,
c'est ça. Moyen.
C'est ça.
Bon,
voilà.
Régulier, va faire son travail un peu à la De Schaik à l'époque. Toujours dans le travail et pas de soucis et ce sera quelqu'un de.
C'est ça.
Voilà, qui, sur lequel on pourra compter. Mais c'est pas lui qui va te faire le saut de qualité dans un match. Mmh. Voilà. Et c'est peut-être problématique parce qu'Anderlecht est quand même un club qui doit avoir des joueurs qui font des différences. Qui doit, dans les jeunes, à un moment donné, à Anderlecht, toi tu les as joués les matchs de jeunes avec le Standard contre Anderlecht. Les joueurs, individuellement, c'était phénomène.
Après lui, il est vraiment jeune, je pense,
parce qu'il a joué aussi
avec la réserve. Et là, il vient d'arriver quand même. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Et je pense en le développant vraiment, ça peut devenir quelqu'un surtout de très intéressant.
Les jeunes joueurs, parce que justement, c'est intéressant. T'as joué contre les RSA Futures, t'as joué contre les Young Hyeng, etc. Est-ce que tu vois une différence par rapport au niveau? Des jeunes que toi t'as connus quand t'étais dans les centres de formation standard, c'est quoi fondamentalement qui change?
Ouais, quand même. Après, que je suis nostalgique du passé, je sais pas, mais je trouve que les jeunes c'était quand même plus fort avant. Parler des matchs d'Anderlecht, moi à l'époque il y avait des Andy Kawaya, Stéphane, il y avait Dodi, Luke Bakio, il y avait je sais pas, il y en avait plein, j'oublie les noms, mais c'était des joueurs vraiment. Tu sens que si on les prend maintenant pour les mettre en équipe première, ils peuvent directement jouer et titulaire, tu vois. Alors que à l'heure actuelle, peut-être pas tous.
Ouais, c'est vrai, effectivement. Le seul vraiment où on peut le dire, mais on le disait depuis déjà 6-7 mois dans les coulisses du Sporting Direct, c'était Nathan De Cat. Mm-hmm. Et Nathan De Cat, effectivement, entre en jeu et plutôt performant et très bon. Hein.
Ouais, il est bon.
T'as déjà joué contre lui? Oui, t'as joué contre lui.
16 ans, quoi.
16 ans, ouais. Qu'est-ce qui est impressionnant chez Nathan De Cat? Le côté physique? Faire la différence, parce qu'il est quand même assez massif. Hein.
Déjà, physiquement, il est, pour son âge, il est impressionnant. Et après, dans sa gestion du jeu, il est très mature. Il sait ce qu'il fait. Rien n'est fait au hasard. Tout est réfléchi. Et ça, pour un joueur de son âge, c'est très prometteur.
On va parler un peu du club de Bruges, messieurs. Ça vous dit de dire un petit mot quand même sur le club de Bruges avec forcément un homme qui est le joueur de la semaine de Thomas. Déjà, on anticipe. Romain Overmars, c'est le joueur de la semaine de Thomas. Il est pas là, donc forcément, on lui souhaite de bonnes vacances en Corse. On va déjà d'ores et déjà spoiler un peu son joueur de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est le sujet. Forcément, est-ce qu'on peut voir? Est-ce que Nicky Hayen doit définir maintenant avec cette prestation? Qui est clutch, qui est décisive, qui permet d'offrir un trophée au club de Bruges, la place de numéro 9. Est-ce que maintenant, il faut prendre ce risque du côté du club?
Bien sûr. Souviens-toi, mardi dernier, tous les deux, on était à le dire, que c'était Romain Overman qui devait jouer en pur 9. Résultat, il a mis deux buts contre la Gantoise le jeudi, il a marqué les deux buts victorieux le dimanche en Supercoupe. C'est clairement le numéro 9 sur lequel Bruges doit compter la saison prochaine, il n'y a pas photo. C'est l'ADN du club, c'est un jeune du club, il a la mentalité du club de Bruges. C'est un finisseur, c'est le meilleur pote de Tsoli, il a tout pour réussir au club de Bruges. Franchement, il a un énorme potentiel et tout, et il rentre vraiment dans cette philosophie, cette ADN brugeoise. Tu le vois, c'est un combattant, il fait les efforts, il se bat, vraiment, franchement, ouais.
Tout seul ou dans une attaque à deux?
Mais là c'est très bien parce qu'il fait les efforts et tout, et comme ça il est le point, il s'est bien servi et tout avec les latéraux, que ça soit les backs ou que ça soit même un de Solis, donc c'est très très intéressant.
Puis il y a de l'intérêt du côté de du Celta Vigo en Liga pour faire un Jugla. Je vais y venir pour faire un Jugla, peut-être que directement le remplaçant peut-être naturellement Romeo Overmars dans son profil, on n'a pas besoin de recruter s'il y a Romeo Overmars.
Mais même tu mets Overmars là et Nilsson et Jugla, ils peuvent partir.
Oui, mais bon, numériquement tu vas jouer avec des champions, tu as besoin de joueurs.
Oui, bien sûr, mais là tu peux recruter au autre, tu peux recruter au autre, mais je veux dire dans le sens où Jugla, c'est pas Jugla, en fait c'est différent parce qu'il est plus polyvalent. Ouais. Donc lui il peut te dépanner à gauche quand Talbi n'est pas en forme, il peut décaler en pointe quand Nilsson n'était pas en forme, il peut même des fois jouer juste derrière l'attaquant, c'est un profil complètement différent, alors qu'un Romeo Overmars je vois plus en concurrence avec Nilsson par exemple.
Très intéressant Xavier, par rapport à Romeo Overmars, est-ce que toi tu penses qu'il a d'ores et déjà les épaules pour maintenir cette pression de numéro 9 de Bruges qui doit marquer des buts?
Oui, je pense, parce qu'il a toujours été formé à Bruges, donc il a toujours connu la pression de ce que c'est jouer à Bruges, même s'il jouait avec le club Next auparavant. C'est pas un joueur, on va dire, qui vient d'un club plus petit ou quoi, qui connaît pas trop c'est quoi Bruges, c'est quoi, que même avec son père il a toujours connu
Sven Dormans, voilà, évidemment les gens du club de Bruges,
donc il sait ce que c'est jouer pour le club de Bruges haut, donc déjà ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent et gérer la pression d'un grand club c'est compliqué pour eux. Mm-hmm. Tandis que là lui déjà il a pas ce problème là, il a prouvé qu'il était prêt, après jouer toute une saison, bah de toute façon il y aura de la rotation vu qu'ils ont plein de matchs, donc je pense que oui.
Tu as joué contre lui?
Ouais,
il était buteur,
il a marqué même. Ouais.
T'en penses quoi?
Ah, moi je suis fan du joueur. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et pour répondre à la question, je pense que oui, ça doit être le neuf de Bruges.
Ouais.
En tout cas, là par rapport à ce qu'il vient de montrer, il a clairement montré qu'il était prêt, que surtout la pression il peut l'assumer et que les buts il sait les marquer. Donc
justement, qu'est-ce qu'il a montré comme qualité dans ce que tu as vu quand tu étais contre lui, quand tu jouais contre lui cette saison?
En fait, c'est un neuf complet. Il sait garder le ballon, il sait aller en profondeur, il sait se faire oublier et surgir au dernier moment, il sait finir. Moi, je trouve il a tout vraiment pour être un neuf complet et efficace de la division.
Ah, c'est hyper intéressant. Justement, on va terminer avec le club de Bruges. Petite question, forcément. Le club de Bruges, même s'ils ont remporté cette Coupe de Belgique, et s'ils vont pas la chercher et que c'est l'Union qui finit champion, aura réussi sa saison, quoi qu'il arrive.
Oui.
Oui.
Ouais, parce que pourquoi? Le parcours en Ligue des Champions, incroyable. T'as le trophée avec la Coupe de Belgique. Et les playoffs, ils ont pas commencé en tête. Pas l'oublier, la phase classique, ils l'ont pas gagné. Donc, même s'ils terminent vice-champion, pour moi, je pense dire que c'est une saison réussie.
Et on sort sur l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Aston Villa, qui est quand même aussi un beau parcours. C'est vrai que même que ce soit économiquement, sportivement, c'est quand même intéressant. Et puis, ils terminent avec un titre, hein, donc forcément, c'est pas piqué des verres, piqué des hannetons.
Un club belge en quart de finale de Ligue des Champions, tu peux pas dire qu'il a pas réussi sa saison.
C'est clair. Le club de Bruges, mais qui pourra quand même s'estimer un petit peu avec un goût amer dans la bouche, on peut dire la vérité, parce que le club de Bruges, dans leur esprit, c'est qu'on l'a dit, le Bayern Munich de Belgique, il y a cette pression de dire chaque année on doit être champion.
C'est pas fini, hein.
Pour marcher sur tout le monde.
Tu parles comme si c'était fini, pas encore être champion.
Tu le sens vraiment?
Tout est possible.
Tu penses vraiment qu'il y a...
ça reste des pleurs.
Moi aussi c'était mon prono, on avait le même prono. Bruges allait être champion, etc. Mais là, au vu de la façon, et on l'a dit, dont on a parlé, de l'Union Saint-Gilloise, la manière dont mentalement ils arrivent à gérer le cours des rencontres, Est-ce qu'il y aura encore un timing? Est-ce qu'il y aura encore une ouverture? Est-ce qu'il y aura encore une fenêtre?
On connaît le football, hein. Tout n'est toujours pas linéaire et tout. Il peut avoir des fois un petit virage. Il peut se passer un truc. Il peut passer une carte rouge. Mm-hmm. Il peut se passer un fait de jeu. Ça peut se jouer sur un fait de jeu. Moi, je dis attention, c'est pas fini.
Continue à teaser. Ouais, tease bien.
Trois matchs, c'est long quand même. Donc ouais, il peut se passer des trucs.
Il peut se passer encore des choses. Xavier, t'es d'accord? Il peut encore se passer des trucs.
Ouais, il peut encore se passer des choses, mais j'aurais pensé qu'il se passerait plus quelque chose du côté de l'Union contre Genk. Malheureusement, ça a tourné en leur faveur. Donc maintenant, j'ai un petit doute qu'il reste plus que trois matchs. Ces trois matchs, c'est long, mais c'est pas beaucoup non plus vu les adversaires qui restent.
Ouais, il se passera plus rien, quoi. C'est ce
Souviens-toi, un Union qui pouvait être champion à domicile, qui joue contre une équipe de Bruges qui ne jouait plus rien. Et c'est, je me souviens plus du nom, c'est un Japonais qui marque et qui fait la différence, et tu te dis mais comment l'Union à domicile qui joue contre une équipe qui jouait plus rien,
Choma,
quelque chose du genre, et son assist de Noah Lang d'ailleurs,
voilà, exactement.
Et que tu te dis mais et l'Union à domicile devait gagner, il n'a pas été champion avec ça. Ouais. Donc l'Union peut jouer contre une équipe de la Grantoise Lander qui joue plus rien, et sous le coup de la pression, sous le coup du stress, attention, la dernière journée va être intéressante.
Ouais, c'est là où on se dit qu'ils ont aussi l'expérience des deux dernières saisons.
Ah bien sûr,
cette erreur là en tout cas, je leur souhaite, mais je pense pas qu'ils la referont.
Je leur souhaite aussi.
Allez, on va passer à la patte de l'expert avec Quentin. Bien évidemment, quel fait d'actualité marquant as-tu décidé de décrypter, chers amis? N'oubliez pas, évidemment, c'est hyper important. Le like et on s'abonne, c'est super. Toujours d'avoir votre soutien. Merci à vous d'être présent depuis le début de saison.
Alors, ben, moi, j'aime bien, vous savez, parler des matchs et analyser une rencontre qui va avoir lieu. La semaine dernière, je l'ai fait sur le Standard Charleroi, le derby wallon. J'avais dit que c'était une équipe allait tenir le clean sheet et que c'est celle qui allait l'emporter. J'avais mis en avant Martin de la Vallée par rapport à Mathieu Polo. Ça a été le cas. Ici, je vais bien sûr parler du derby bruxellois. Donc, Anderlecht qui reçoit l'Union. Je pense pas qu'on verra beaucoup de goals. Ça va se jouer vraiment sur un petit détail. Historiquement, ici, l'Union, cette saison, ils ont fait 0-0 à domicile en phase classique. Ils ont été gagnés 0-2 à Anderlecht. En playoff, ils ont gagné 2-0 là-bas. Mais au point de vue des clean sheets, Anderlecht à domicile, c'est quand même assez costaud. C'est 50% de clean sheet à la maison en championnat. Et l'Union est à 44% à l'extérieur. Donc ça va être assez serré. Par contre, d'un point de vue historique, Anderlecht, c'est que 20% de clean sheet contre l'Union Saint-Gilloise. Et c'est 42 pour l'Union. Donc avantage à l'Union. Et c'est surtout que l'Union, c'est que 2 goals encaissés en 7 rencontres des playoffs contre les 5 meilleures équipes du championnat. C'est quand même très, 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 très solide défensivement. Après, je trouve que Anderlecht a une revanche à prendre par rapport à la finale de la Coupe. Une revanche pour leurs supporters. Comme je le disais précédemment, s'ils ont de l'amour propre. Donc, je dirais peut-être un 0-0 ou un petit but d'une équipe, mais il n'y aura pas beaucoup de goals et ça va se jouer vraiment à rien.
Je vais appeler David pour qu'il soit son assistant. T'as vu la machine que c'est ou quoi? Il est incroyable. Quentin, merci beaucoup pour cette patte de l'expert. On passe évidemment maintenant au Football Time Award. On va faire un point sur le classement général avec toujours un classement général trusté par Adriano Bertaccini avec 9 points, toujours leader dans ce classement. Il est suivi par Franjo Ivanovic, à égalité de points d'ailleurs avec Christos Tsolis qui a gagné beaucoup de points ces dernières semaines. Et puis il y a une troisième place qui se joue entre un certain Mathieu Polo, entre également Jaron Cherry et également Davy Roof qu'on avait quand même sacré à plusieurs reprises au début de saison, notamment toi Xavier, oui. T'avais été assez dithyrambique.
Ouais, après il s'est blessé, donc compliqué de marquer des points.
Voilà, c'est ça, exactement. Et on l'a dit, donc le joueur de la semaine, on en a parlé tout à l'heure, c'est Romeo Vermaet pour Thomas. Xavier, à qui veux-tu rendre hommage?
Moi, ça va être Christophe Tsolis, parce que je trouve que...
Ah ben voilà, et ben on va encore reprendre des points.
Ouais, mais t'as vu les playoffs qu'il fait
de Christophe Tsolis.
T'as vu les playoffs qu'il fait, toute la semaine, il marque, il est décisif. Bref, il gagne 4-1 contre Gand, il fait doublé et un assist.
Que veux-tu dire?
Voilà. Vraiment, c'était bien, mais niveau stats, Tsolis c'était un peu plus impactant, je trouve. Et ouais, franchement, Tsolis en playoff, pour le moment, il a eu un moment de creux, mais là, il est de nouveau en feu. Et donc, ouais, pour moi, je pense que lui, on doit le mettre en évidence, vu la journée qu'on vient de passer.
Et Quentin, on va rendre hommage à...
Un joueur qui Saint-Tron, je pense, devrait mettre une statue devant le stade pour
exactement.
Lui, parce que
sans en
lui,
or.
Mais vraiment pas.
Avec le drapeau d'Italie et la Belgique à côté.
Je sais pas en or, mais franchement, il devrait lui mettre une statue devant le stade. C'est Adriano Bertaccini,
évidemment.
Parce que ce qu'il a fait cette saison sur un club comme Saint-Tron, sans manquer de respect à Saint-Tron, mais il les a sauvés. Clairement, il y a pas photo. Donc, et encore ce week-end, quand t'as un match hyper important comme ça, même si tu joues contre l'Amberscott qui est déjà relégué, on l'a vu Courtrai a perdu des plumes très importantes contre l'Amberscott déjà relégué. Tu gagnes 2-1, il te met les deux buts. Franchement, tu peux juste lui dire merci.
Il est à 20. Hein. Il est à 20 buts.
Ouais, il a 20 buts.
Et 4 passes décisives si je ne m'abuse.
Exactement.
C'est une machine de guerre. Hein.
Saison incroyable, franchement. Wow.
Hâte de voir où il ira.
Comment il s'est adapté aussi vite à la D1, franchement, chapeau.
Ouais, et c'est surtout un joueur qui a cette grinta. Tu
vois. Ça c'est Adrien.
C'est vraiment son truc. T'avais joué contre lui aussi, avec le, enfin, contre évidemment RFC Liège.
Quand il joue à Liège, ça, et franchement, ennuyant à jouer, hein, parce qu'il lâche rien, il court tout le temps, il se donne à fond. Pour lui, aucun ballon n'est perdu. Et devant le goal, c'est un tueur.
Un joueur formé du côté du KRC Genk, hein, qui le KRC Genk, on le rappelle, n'a pas donné vraiment la chance et la confiance. Il a pris l'équipe ennemie et il en a fait complètement. Il en est devenu le véritable titulaire indiscutable. C'est assez dingue.
Non, franchement, c'est vraiment bien. Comme Fadal le dit, sa mentalité, c'est un battant, c'est un guerrier sur le terrain. Et tu vois, et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir ses goals, de faire ce petit pas en plus.
Ouais.
Donc vraiment, respect à lui et bravo à lui.
Et à titre personnel, j'ai choisi Christian Burgès. Voilà, le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise. Fort, rock, véritable leader, buteur en plus de ça dans ce match face au KRC Genk. Donc clutch, clinique, efficace. Il sait complètement faire des différences quand on lui demande. Et puis surtout, il a retrouvé véritablement sa meilleure forme, je trouve, dans les Champions Playoffs. Donc voilà, un petit point pour Christian Burgès. C'est à vous désormais sur X et sur Instagram de nous donner tout simplement le point bonus. Qui ira chercher le point supplémentaire? Soit Adriano Bertaccini, soit Christian Burgès, soit Christos Tsolis, soit Romeo Vermaet. C'est à vous de décider. Et puis on va se quitter avec le petit teasing du temps additionnel. Et oui, il a encore une séquence à lui, il est incroyable. Quand... Et oui, c'est la star évidemment de cette émission. Quel joueur va performer le week-end prochain, cher ami, c'est dans ta séquence et ce sera dans un autre épisode.
Exactement, ça a retrouvé demain et on va parler parler essentiellement des joueurs des playoffs 1. Il y en a pas mal qui pourraient performer. J'aime notamment bien le duo Romeo Overmand et Christos Solis pour juste parler de eux deux, qui, on le voit, sont amis dans le vestiaire, qui parlent à l'anecdote, qui parlent entre eux de déjà la célébration qu'ils vont faire le prochain match. Tu dis déjà, quand tu sais qu'avec ton pote, tu vas dire quelle célébration à faire, tu dis déjà sur le terrain, on va marquer ensemble. Et comme ils l'ont fait avec la chaise là devant les supporters et tout, donc ils jouent contre Genk, une équipe de Genk qui va vraiment vraiment mal dans ses playoffs, une équipe de Bruges qui doit absolument gagner. Donc c'est deux joueurs parmi d'autres qui seront à découvrir demain.
Fadel, merci beaucoup d'avoir été dans l'émission.
Merci
c'est
à vous.
Un vrai bonheur de pouvoir te compter comme l'invité de ce mois de mai. C'est honoré, vraiment un vrai plaisir.
C'était un plaisir en tout cas.
Ouais, c'est vraiment vraiment chouette. Je vais te poser une dernière question pour terminer cette émission, parce que je me suis juré que j'allais quand même la poser. Parmi les moments que tu as vécu, il y a eu beaucoup de résilience, il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu à un moment donné, il a fallu mordre sur sa chique. Et quand tu es descendu en amateur, je me suis un peu posé la question de ton avenir. Mmh. Est-ce que toi aussi tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter le foot?
Ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit. Après, comme j'ai dit avant, j'avais la conviction que j'étais capable de jouer plus haut. Donc, quand les idées me traversaient la tête, j'essayais de les chasser au plus vite et me remettre directement focus sur mon objectif. Mais ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit.
La passion coûte que coûte, quoi exactement, qu'il arrive.
Exactement.
C'est bien. Merci beaucoup, en tout cas, Fadel, d'avoir été dans cette émission. Quentin, merci à toi.
Passion et mindset, c'est important. On le voit que c'est là qu'il y en a beaucoup qui, le mental et tout, et travaille son mindset, je trouve, c'est quelque chose qui est pas assez travaillé par les joueurs. Et la preuve, quand t'es un jeune espoir du Standard de Liège, qui a tes 17 ans, tu fais ton premier match contre Moucron. D'ailleurs, pour Thomas, contre Moucron, on en parle encore de Moucron, même s'il n'est pas là. Mais non, quand tu as 17 ans, tu as promis un très bel avenir et que tu te retrouves en amateur et remonter en division 1 comme ça, c'est bravo pour le mindset, j'admire.
Voilà. Merci.
Tu as peut-être appelé un coach mental ou pas du tout?
Non, pas vraiment. Après,
c'est la foi qui t'a guidé.
Aussi.
Ah, c'est important.
Aussi, ouais.
Comme toujours, évidemment, ça aide à tout simplement être porté dans les moments parfois un petit peu plus difficiles. Xavier, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bisous au bébé, oui, ça n'y manque pas. Et quant à vous, évidemment, on vous embrasse très fort. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, on like et on s'abonne. Merci d'être allé au bout de cette émission. Merci d'être si fidèle chaque semaine au Football Time. On se retrouve très très rapidement parce que le football belge ne s'arrête jamais. Parce que le Football Time ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.